France Info.
Bonjour Suzanne.
Bonjour.
Serre les dents, comme d'hab, tu te tais, souffle, sois prudente.
Vous êtes autrice, compositrice et interprète. En 2020, vous avez reçu une victoire de la musique dans la catégorie Révélation scène, amplement méritée avec les 450 concerts que vous avez fait autour d'une tournée assez folle. C'est derrière un bar où vous avez officié que vous avez écrit vos premiers textes, un peu amers, déjà ô combien représentatifs de ce que vous ressentiez. Un mélange de joie de vivre, de colère, un besoin urgent de crier haut et fort ce que vous aviez sur le cœur, porté par l'affection pour ces chansons réalistes de Piaf, Brel, Barbara, celles que vous écoutiez enfant à la maison. Ça s'appelle l'héritage de parents mélomanes. Alors oui, au départ, il y a bien eu la danse classique, mais vous avez vite compris que vous vouliez, vous, mener la danse, plus que vous ne souhaitiez qu'elle vous mène. Donc, pas à pas, vous avez construit votre chemin avec comme seules armes un crayon et un micro. Le crayon pour formuler, le micro pour devenir une voix, celle que beaucoup n'osent pas élever. Et en peu de temps, vous êtes devenu justement cet artiste qui appuie là où ça fait mal, là où ça fait souvent mal, en assumant d'être féministe et je dirais même jusqu'au bout des ongles. Aujourd'hui, vous êtes de retour avec un troisième album intitulé Millennium. Il transpire l'urgence de vivre, l'importance de prendre le temps et parfois la peine de vivre ensemble. Et on va appuyer sur le mot peine qui a beaucoup de signification. Vous vous dépeignez dans cet album autant que vous dépeignez la société finalement. L'encre principale, c'est quand même vous, Suzanne. Je crois que c'est l'album le plus intime que vous ayez décidé de nous offrir. Vous nous racontez ce qui vous touche, ce qui vous affecte, ce qui vous révolte. Vous avez espéré gravir votre Everest, c'est-à-dire courir vers le bonheur et chercher une paix intérieure. Ça veut dire que vous avez déposé un peu certaines armes et un peu, on va dire, délesté votre sac à dos.
Je pense que dans cet album, j'avais envie de pouvoir tout dire. Non pas que dans les précédents, j'ai pas tout dit, mais je crois que j'évolue, que ma vie de femme fait aussi que j'ouvre un petit peu toutes ces choses que j'avais un petit peu fermées, ne serait-ce qu'en écrivant Je t'accuse et en commençant par cette chanson-là pour présenter cet album. J'ai l'impression de me libérer, de libérer encore un peu plus ma plume, de pas en avoir peur, parce que c'est vrai qu'être féministe aujourd'hui, je l'étais déjà à 7 ans et demi, mais je pense qu'à 30 ans passés, on voit que le féminisme prend beaucoup de place aujourd'hui, mais on voit que le masculinisme monte un petit peu en même temps. Donc voilà, je pense que c'est essentiel de continuer d'écrire ces chansons là, de parler de la vie d'une femme pour les femmes. Et voilà, je suis assez fière de cet album. J'espère qu'il résonnera chez les femmes, mais aussi chez les hommes et chez beaucoup d'autres gens.
Vous avez eu ce besoin de vous raconter. Vous nous parlez de vous, enfant. Vous nous parlez de votre mère en disant que son seul boss était le patriarcat à cette époque. C'est elle a élevé 4 enfants. Et en même temps, elle ramenait un salaire à la maison. C'est comme ce que vous écrivez. Et vous parlez de cette enfance où vous aviez, entre guillemets, les rêves qu'on pouvait vivre ensemble et qu'on allait être tous et toutes égaux. Et finalement, des illusions. Cet album, c'est ça aussi, c'est une main tendue à travers votre histoire pour nous rappeler notre histoire à nous.
Oui, je pense que c'est un album qui, j'espère, parlera à toutes les générations, même si moi, je parle peut-être plus précisément de la mienne, les milléniaux. Nous qui sommes nés à l'époque où, on a commencé à vivre notre enfance sans Internet. Enfin, moi, j'ai connu un monde où il n'y avait pas encore Internet, où on nous promettait, avec un bac plus 5, qu'on aurait un super travail, une jolie maison, une super situation. Là, je vois aujourd'hui, en grandissant, que la plupart de mes potes qui ont des bacs plus 5, plus 8 sont chez France Travail. Donc on voit que c'est un monde effectivement où on connaît la désillusion, on voit le décor s'effondrer. Moi, c'est vrai que je suis née dans un monde où je ne pensais pas qu'un jour la mer de glace, moi qui l'ai vue à 8 ans, aujourd'hui 30 ans passés, je pense que la mer de glace, je pourrais pas la montrer à mes enfants si j'en ai un jour. Elle n'existera plus. Bon, je parle de la mer de glace, mais c'est un cas, malheureusement, il y a un peu partout ce constat de dégâts. Je crois qu'on est la génération qui constate. Constatons, je le dis souvent, et soit on constate et on fait rien de plus, soit on constate et on décide de changer les choses, parce que je pense que chaque jour qui existe, chaque jour où on fait des choix, c'est des choix pour demain. Soit on fait un monde encore plus naze, où on continue d'accepter la violence, l'homophobie, toutes ces choses qui nous pèsent aujourd'hui, soit on prend vraiment l'urgence d'essayer d'aller vers quelque chose de mieux, quoi.
C'est l'heure, même programme que la veille, le taf, les gosses, la bouffe, l'oseille.
Vous nous prenez par la main aussi dans Humanoïde, hein. Vous nous confrontez à nous-mêmes, à notre addiction aux écrans, à la technologie aussi, à
première
notre incapacité
concernée.
Effectivement justement à nous émerveiller un peu de ce qui se passe autour de nous, de la vraie vie. Là dans cette chanson vous parlez des glaciers mais pas que, c'est tout un symbole. Inévitablement ça veut dire qu'on est tous addicts et qu'il va falloir un peu retirer cette drogue qui nous affecte.
Bah, je pense qu'on est un petit peu tous addicts et moi la première. Après moi ce qui me fait très peur c'est qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on peut regarder le chaos sur nos fonds d'écran et qu'on est un peu froid par rapport à ça, quoi. Aujourd'hui, sur nos fonds d'écran, on voit la guerre, on voit tout plein de choses, on voit des incendies, on voit le chaos constamment. Et j'ai l'impression qu'on s'y habitue à le regarder, ce chaos, et en étant un peu derrière des écrans. Donc on est un petit peu impuissant, on reste un petit peu derrière nos écrans. Mais est-ce que la vraie action, elle prend place? Je suis pas sûre de ça. Donc dans Humanoïde, ouais, il y a quand même ce rapport au réseau. On sait qu'aujourd'hui, l'IA, à chaque fois qu'on fait une recherche sur ChatGPT, c'est presque un lac qui s'assèche. Donc est-ce que notre envie de progresser constamment, ce serait pas une autodestruction un petit peu programmée? Parce qu'on voit aujourd'hui qu'à chaque fois qu'on progresse, ben, on régresse ailleurs, notamment sur la nature, sur l'écologie, etc.
Pour vous, il faut agir. C'est ce que raconte cet album. C'est ça le propre de l'artiste, d'ailleurs. Ouais. C'est d'encourager les personnes à agir. C'est ce que vous chantez dès le départ avec T'as raté. De faire des erreurs, ce n'est pas l'erreur, justement. L'erreur, c'est de ne pas en faire et de ne pas tenter.
Bah, je pense que l'échec, après tout, est un apprentissage. J'ai mis du temps à me le dire parce que je pense que j'ai une grande anxiété de performance. Et venant d'un milieu où, de danse, on m'a toujours dit c'est pas assez bien, je pense qu'il y a ça en moi. Mais oui, je pense qu'on est dans une société où on doit être performant constamment. On oublie que l'échec, mine de rien, l'échec, ça fait partie de la vie. On est obligé de passer par l'échec pour apprendre. Et je crois que cet album, dans tous les cas, c'est oui, effectivement, un appel à l'action, un appel au corps, parce qu'il est quand même assez dansant. Moi qui viens quand même de la danse, j'avais envie qu'il soit physique, cet album. Donc j'espère qu'il va donner le ton, entre guillemets. Je pense pas qu'il soit plombant, cet album. Je suis une chanteuse réaliste. Hein. Je suis arrivée en disant que j'étais une conteuse d'histoires vraies, ce que je continue d'être. Donc la réalité, parfois, est pas toujours très rose. Elle est pas édulcorée. Je rajoute pas des formes pour la rendre plus jolie. Par contre, je dis à la fin que cette réalité, on peut en sortir et qu'en tout cas, on peut la rendre un peu plus sympathique. Donc voilà, appel à l'action, appel à l'urgence. Je crois que notre génération est en pleine urgence. Et pas que la nôtre, d'ailleurs. C'est la nôtre et celle d'avant et les suivantes. J'ai un frère qui a 17 ans de moins que moi, qui me demande aujourd'hui à quoi ça sert de travailler à l'école s'il n'y a plus de travail, à quoi ça sert de faire plein de choses si à la fin, il n'y a pas vraiment de futur. D'entendre ça, ça me conforte pour dire qu'on est dans une urgence assez extrême.
Vous avez toujours été très au fait des personnes qui vous entouraient. La disparition d'un de vos amis a été un cataclysme dans votre vie. Vous avez décidé de redistribuer les cartes, en tout cas de vivre le moment présent en vous disant qu'effectivement, cette vie, elle pouvait aussi nous réserver de mauvaises surprises. Vous l'abordez d'ailleurs, les mauvaises surprises dans cet album. Ça fait partie de vous, cette sensibilité, cette incapacité par moment d'affronter le pire, mais en même temps en ayant envie de l'affronter?
Je pense que ça fait partie de moi depuis toujours. Juste, j'avais pas les outils quand j'étais plus jeune pour arriver à me sortir, parce que oui, ça peut me mettre dans des états quand même de détresse assez intense. Je comprends pas toujours le sens de l'existence. Je pense que je le dis dans une chanson qui s'appelle Un sens à tout ça. La perte de mon ami Yvan, effectivement, me ramène parfois à ces... Profite de la vie quand même, c'est précieux la vie, et même si tu comprends pas toujours pourquoi tu la vis, cette vie, profites-en. Donc je toujours un petit peu obligée de me ramener à ça, à cette pensée plus positive. Mais sinon, heureusement, je le dis, heureusement que j'ai la musique, heureusement que j'ai des mots pour essayer de répondre à ces questions que je me pose toute la journée. Et parfois, je ne comprends pas ce monde, je ne sais pas où il va. Et je me dis, soit je vis de cette manière. Peut-être que c'est plus facile, mais j'y arrive pas forcément. Donc heureusement qu'il y a la musique.
On se tait, on ne voit rien.
Ouais, on se tait, et voilà, vraiment ce truc-là. Et il y a beaucoup de gens, parfois, dans mon entourage qui me disent « Tu te poses trop de questions, genre, sous message, t'es un peu relou de te poser autant de questions. » Bon, je me pose des questions, mais parce que je vois les choses et j'ai envie de me les poser, et je pense que je suis plutôt du style à combattre qu'à fuir. Donc, allons-y pour le combat. À la vie qu'on mène, au
grand rêve qu'on traîne. Dans Plus que moi, que vous chantez avec Youssoupha, vous nous faites part vraiment de vos questionnements, un peu de vos angoisses en plus de votre sensibilité. Vous n'hésitez pas d'ailleurs à parler de la misogynie des rappeurs.
Ouais.
Vous êtes quand même en train de donner la réplique à un rappeur, ce qui est plutôt super drôle, mais ça vous correspond, je crois. Vous avez envie de soutenir le féminisme. Vous dites « J'ai peur de l'avenir, peur des discours de haine faits avec le sourire. J'ai peur de la montée des extrêmes, de poser des mots sur les mots, ça vous soulage ?»
On dirait en tout cas que c'est un exercice qui m'apaise. Encore une fois, si je n'avais pas ça, je sais pas de quelle manière je pourrais m'apaiser, quoi. Peut-être en consommant des films, en écoutant de la musique et tout, mais je pense que en la créant moi-même, je peux me déverser justement de toutes ces choses que j'ai vues dehors, où je me suis sentie impuissante, inerte, face à de la violence la plupart du temps, quoi. Donc je parle de féminisme dans cette chanson, et oui, je dis que mes copines n'écoutent plus les rappeurs misogynes. Elles me disent à chaque fois « fais un feat avec Youssoupha ». Youssoupha, c'est vrai que c'est un artiste, un rappeur qui est, moi, dans ma playlist depuis quelques années. C'est un des rares à parler aux femmes, à parler des femmes avec respect et sans glisser une phrase qui peut nous heurter, là, au milieu d'une chanson. Parce que ça m'arrive d'écouter des rappeurs, me dire que c'est super, mais que... Ah, un truc qui me pique un petit peu l'oreille, et ça, il n'y a pas chez Youssoupha. Il y a une chanson qui est sortie récemment qui s'appelle Dieu est grande. Il faut pouvoir l'écrire une chanson comme ça à sa place d'homme. Et donc pour moi, Youssoupha est un allié. Donc je me permets d'écrire une chanson qui parle de féminisme. D'ailleurs, j'ai écrit mon couplet avant. C'est plutôt moi qui ai imposé entre guillemets le terrain de la chanson. Et lui, il est venu se glisser là-dedans. Donc il n'a pas eu peur de ce que je représente parce que je suis quand même une chanteuse à qui on attribue souvent des chansons engagées, féministes.
Militantes.
Donc il aurait pu se dire, oh là là, elle fait un peu peur, Suzanne, quand même, dans son package. Non, au contraire, il s'est dit, bon, ben, c'est le moment de parler aux femmes et pour les femmes. Donc merci, Youssoupha.
À chaque fois, vous utilisez d'ailleurs les collaborations pour faire avancer les regards, hein, Suzanne.
Bah,
il y a eu Grand Corps Malade aussi.
Essaye.
Vous étiez mise dans la peau d'un homme et lui d'une femme. Ça a parlé à tout le monde, ça.
Ouais, je crois que par des biais d'humour, ou là, il y a un peu moins d'humour peut-être avec Youssoupha, mais en tout cas, j'ai souvent des artistes alliés, hommes, qui viennent prendre la parole avec moi. Et cool, parce que ça se fait très souvent naturellement. Et d'ailleurs, on l'entend dans leurs chansons. Grand Corps Malade, j'ai atterri sur cet album qui s'appelle Mesdames. Bon, je trouve pas ça incohérent. Et donc oui, en général, mes seuls feats sont avec des artistes masculins, en effet.
Respectueux.
Ouais, respectueux, ou du moins qui participent à cette cause sans avoir peur de dire qu'ils sont féministes aussi. Parce qu'aujourd'hui, féministe, je me rappelle, il y a quelques années, on avait presque l'impression que c'était un gros mot de dire féministe. Aujourd'hui, il y a quelques hommes qui peuvent dire qu'ils sont féministes sans rougir, quoi.
Paraît que je suis forte comme un garçon, que je me bagarre comme un garçon, que j'ai l'air manqué comme un garçon. On dit que j'en ai dans le pantalon, mais moi je suis forte comme une fille. Je sais me battre comme une fille, j'ai la tête haute comme les autres filles.
Il y a le fait d'être féministe et le fait d'être virile depuis qu'on est petite. Vous le revendiquez, ça. Vous dites, oui, j'ai toujours été virile, je suis une fille virile. Et non, j'ai pas envie de changer de trottoir quand on m'indique qu'il faut changer de trottoir. J'ai pas envie de baisser le regard parce qu'on me demande de baisser le regard. Je suis comme ça. Ma mère le savait déjà aussi très tôt. On est obligé d'avoir un petit côté, justement, un peu viril, un peu testostéroné pour affronter.
Je pense que le viril en soi, alors peut-être que moi je l'appuie encore un petit peu plus parce que j'ai ce côté-là depuis que je suis gamine. Ma mère m'emmenait dans les magasins pour aller chercher des robes et être dans un truc très genré. Et moi, malheureusement, j'étais pas très emballée. Donc c'était, je pense que c'est mes premiers rapports à la féminité où je me disais, ah mince, t'es pas une vraie fille. Les gens avaient tendance à me dire que j'étais un garçon manqué parce que je jouais beaucoup au foot, que j'avais la casquette à l'envers. Et oui, effectivement, j'avais un petit look où moi, je me sentais juste libre dans mes fringues. J'étais pas un garçon ou une fille, peu importe. Et là, quelques années plus tard, donc un jour, je décide parce que on a souvent des adjectifs qui sont accolés aux femmes et puis des adjectifs pour les hommes. Et c'est rarement mixte. Un jour, je tape le mot viril pour voir quelle est vraiment la vraie définition du mot viril. Je vois qu'on peut pas forcément ajouter de E déjà à viril et ça m'embête un peu parce que finalement, quand je lis la définition du mot viril, c'est puissant, courageux, fort. Puis je pense à toutes les femmes qui sont autour de moi, toutes les femmes du monde, et je me dis, ne sont-elles pas courageuses, puissantes, fortes ? En fait, elles sont viriles aussi, quoi, si on doit vraiment prendre la racine du mot. Donc je me suis permise de nous attribuer, à nous aussi, cette virilité, parce que c'est pas que... La virilité, d'ailleurs, n'est pas que toxique et que... Elle ne sert pas que la masculinité toxique. Je pense que, je suis forte, je suis courageuse, je suis puissante. Je le dis dans cette chanson virile. Et d'ailleurs, je dis que je suis virile, mais que toutes les autres femmes le sont aussi quand elles défendent leurs droits, quand elles bossent comme des patronnes, quand elles font tout, comme font les femmes, en fait.
Il y a une dualité chez vous, Suzanne.
Sûrement.
C'est-à-dire qu'à la fois, vous affrontez ce que peu arrivent à affronter, parce que vous êtes devenue une voix aussi. Vous parlez à la place de beaucoup de personnes qui ne peuvent pas le faire. Et en même temps, dans la chanson « Je t'accuse », où vous montrez du doigt, justement, un système judiciaire qui est dramatique, vous vous incluez au prénom que vous donnez des personnes qui ont des femmes qui ont vécu des violences, soit psychologiques, soit sexuelles. Mais en même temps, vous n'avez jamais vraiment abordé le sujet. C'est assez étonnant, ça.
Ouais, je pense que ce sujet, le « je t'accuse », ce « moi aussi », il a été très dur. Finalement, je pensais me cacher derrière des prénoms de femmes. Et ce « moi aussi », il a fallu que je le crache aussi dans cette chanson.
Qui est vraiment partie de l'histoire de Gisèle Pélicot.
Alors, je pense que c'est pas vraiment. Je pense que ça part de mon histoire intime. C'est arrivé dans ma vie de femme, il y a quelques années déjà. J'ai mis du temps à en parler, déjà, j'ai mis du temps à accepter moi-même ce qui était arrivé. J'étais encore sous le choc, je pense, pendant des années et des années. La honte, la culpabilité, tout ça a fait que j'ai eu du mal à mettre des mots tout de suite là-dessus. Et je pense que le procès de Gisèle Pélicot m'a juste aidée, comme beaucoup d'autres victimes, à avoir le courage de me dire déjà, de me reconnaître moi-même en tant que victime, de ne pas poser un mouchoir dessus et dire, bon, dans la vie d'une femme, malheureusement, ça arrive. ça existe, et puis bah, je me tais, et puis je continue ma vie. Je pense que le fait que Gisèle ait enlevé ce huis clos et qu'elle n'ait pas honte d'aller affronter tous ces agresseurs, je pense que ça a donné beaucoup de force à plein de gens, plein de victimes. Et donc moi, le Je t'accuse, à cette période, c'était en 2024. Je sais pas si c'est lié à tout ça, mais en tout cas, j'avais beaucoup de flashbacks, j'avais beaucoup de remontées de cet épisode. Soit ça continuait, j'allais voir un psy, enfin, en tout cas, il fallait que je m'aide à ce moment-là. Mais de façon un peu urgente, quoi. Donc le premier outil qui est arrivé, c'était un piano. C'était chez moi, entre quatre murs. Cette chanson a failli ne jamais sortir, hein, je le dis, parce que à la base, je l'ai écrite pour moi. Je ne l'ai pas écrite vraiment pour la partager. Et avec le temps, en fait, je pense que la colère a repris le dessus. Quand j'ai vu dans les médias qu'il y avait encore beaucoup de témoignages concernant les violences sexistes et sexuelles, je pense que voilà, la colère a commencé à monter et à dépasser la pudeur. À ce moment-là, je pense que j'ai pris cette chanson et je me suis dit que j'allais la porter. Ça n'a pas été évident, mais il a fallu que je la porte.
À vos côtés, pour le clip, il y a Andrea Bescon, qui est la maman des Chatouilles. C'est dans laquelle
femme
elle raconte
incroyable.
Sa propre histoire.
Ouais.
Hein, elle a été violée par le meilleur ami de son père.
Ouais.
Ses parents n'ont jamais reconnu, ils ne sont jamais excusés, ce qui est quand même aussi une deuxième
violence, ouais.
Voilà, violence psychologique extrêmement forte. Ça, c'est un gros symbole. Hein. Ce clip, c'est un coup de poing, mais c'est un gros symbole.
Ouais, je pense que c'est... Merci Andrea Bescon, parce que pour la petite anecdote, Andrea, la première fois que je la découvre, c'est il y a 10 ans. En allant regarder sa pièce de théâtre Les Chatouilles, et c'est la première fois.
C'est une danseuse aussi, comme
vous. C'est une danseuse hors pair, une comédienne hors pair et une femme hors pair. Elle me connaît pas à ce moment-là, enfin moi non plus. Je me retrouve dans cette salle à regarder Les Chatouilles, et je pense que c'est la première fois que je me prends une baffe aussi grande. Et je ressors de là en étant une jeune fille. J'écris pas encore mes chansons, et je me dis l'art peut toucher à ce point. Peut réparer, peut réconforter, peut avoir du poids, quoi. Donc je comprends ça en sortant des Chatouilles d'Andrea Bescon, et finalement, 10 ans après, c'est la première réale que j'appelle pour mettre des images sur ce clip de Je t'accuse, quoi. Andrea m'avait beaucoup aidée dans ce clip, et je pense que c'était la meilleure personne pour le faire, puisque le jour J, sur le tournage, il y avait quand même une charge émotionnelle assez forte. Il y avait des personnes publiques, des personnes anonymes, toutes victimes, et Andrea avait vraiment les mots justes pour venir chercher ses émotions sans nous forcer à les donner. Ça a été vraiment un moment très intense, et je crois que ce jour-là, en tout cas pour ma part, et je pense pour la plupart des victimes, on a relâché un poids qui était là depuis moi quelques années, en tout cas, et j'ai eu la sensation de lâcher ce poids sur ce plateau. Et aujourd'hui, de voir que le clip existe sur YouTube et que toute la partie commentaire est de plus en plus réconfortante, et les gens s'envoient des témoignages, certes parfois difficiles à lire, mais il y a beaucoup de réconfort autour de ça. C'est merveilleux.
Le visage de Je t'accuse, c'est la justice.
Ouais.
Vous dénoncez, vous montrez du doigt des personnes invisibles mais qui se reconnaissent, et c'est en ça d'ailleurs que ça est en train d'avancer, c'est que de voir les choses, d'être informé des choses mais de ne pas agir, ça devient finalement quelque chose d'assez grave.
Ça devient grave, bah, c'est surtout que cette chanson, j'ai pas vraiment fait exprès, mais je l'ai sortie le même jour que la Cour européenne des droits de l'homme qui condamne la justice française pour manquement et sexisme. Pardon, donc je pense que mon ressenti était... quand même plutôt légitime, et je sens qu'on est beaucoup à avoir la même pensée face à la justice française. Et d'ailleurs, depuis que j'ai sorti la chanson, il y a eu maintes et maintes affaires. Malheureusement, comme vous le dites, on voit beaucoup des chiffres. Moi, j'avais envie de montrer des visages, des vraies personnes, des humains. Parce que derrière les chiffres, il y a des humains, il y a des histoires de vie. Et je pense que c'était important de le rappeler.
On entend à la fois la colère et le besoin de réparation dans toutes les chansons que vous avez sorties de cet album.
C'est vrai qu'il y a un peu ça. Je pense qu'il y a toujours cette quête de liberté, l'urgence de se sortir de ces diktats qui peuvent nous peser parfois. Il y a un peu de révolte aussi, je pense, dans cet album. Hein.
Point levé,
ouais, je pense qu'il y a un peu ça. J'ai toujours été un peu ça. Dans mes concerts, il y a toujours eu un petit peu ce truc de le public qui se révolte un peu selon les chansons que je chante. Là, il y a quelques chansons que j'ai hâte de jouer dans les salles de France, ouais.
Vous parlez de vous avec pudeur, toujours. Vous revenez souvent, effectivement, sur ce qui vous a toujours touché, mais vous dites quelque chose de très fort qu'on ne pensait pas forcément entendre dans votre voix, c'est qu'effectivement, vous avouez que vous courez après le bonheur et que votre Everest, c'est la paix intérieure. C'est un long chemin, ça.
Je crois que c'est le plus long. Enfin, je sais pas. Je sais même pas à quel endroit du chemin je suis. Je sais pas si c'est tous les artistes qui sont comme ça, mais est-ce que on choisit pas d'être artiste quand on sent qu'à l'intérieur il y a quelque chose qu'il faut combler, ou je sais pas en fait. Au plus je grandis, au plus je me dis que oui, il y a une espèce de quête de paix intérieure, parce qu'à l'extérieur, en tout cas, je la trouve pas. Donc au moins à l'intérieur, ce serait pas mal. Voilà, c'est. Est-ce qu'il faudra un jour que j'aille vivre au fin fond de la Lozère, qu'avec des plantes et des animaux, ça pourra arriver, je pense, un jour. Mais là, en tout cas, pour le moment, les chansons me font du bien. Je sais qu'elles changent pas le monde, les chansons, mais au moins elles réunissent les humains qui les écoutent. Et je pense qu'on est dans un moment où on a besoin d'être unis, encore plus.
Attrape-moi, fais-moi tourner, valser comme un pantin. Fais-moi tomber, chialer comme un bambin.
L'adage dit vivons cachés, vivons heureux. Au contraire, vous avez envie de propulser cet amour au grand jour, hein, et de le revendiquer, d'arrêter de vous cacher, on va dire d'arrondir les angles pour celles et ceux que ça dérange. On parle de liberté souvent quand on parle de vous, Suzanne. Vous terminez sur la chanson à la vie, vous trinquez à la vie finalement. L'idée, c'est de ne pas avoir de regrets, parce que vous vous sentez libre et sans regrets.
Là, aujourd'hui, oui. J'espère que je fonctionnerai comme ça toute ma vie, parce que encore une fois, on parlait d'échecs tout à l'heure. Je préfère avoir beaucoup plus d'échecs que de regrets. Ça voudra dire que j'ai un petit peu appris de cette vie, de cette existence. Je pense qu'à la fin, je suis libre. En tout cas, dans ma musique, je le suis. Je sais pas si je suis tous les jours libre dans ma vie de femme. Mais en tout cas, à travers mes mots, j'essaye de l'être et de l'insuffler, cette liberté.
La suite, c'est la scène.
Ouais, vivement.
Vous avez hâte?
Ah bah là, ça fait 2 ans que je suis enfermée en studio. Je suis plutôt une artiste de scène, faut le dire. Donc là, je suis plutôt comme un lion en cage. Là, va falloir vite ouvrir la cage parce que je crois que j'ai des choses à dire sur cette scène.
Millennium, c'est le titre de ce nouvel album. Fière?
C'est une des premières fois que je découvre la pochette et je trouve qu'elle est plutôt réussie. Enfin, ça va quoi. Je pourrais la regarder à 80 ans, je me dirais bon, j'étais pas mal à cette époque.
Juste un mot sur les dates à venir. Il y a notamment le Zénith le 21 mars. Oui. Alors. La tournée, elle démarre le 13 novembre, mais c'est un peu typé parce qu'il y a beaucoup de dates qui sont déjà complètes. Le Zénith, c'est évidemment un passage particulier.
Ah bah c'est le premier déjà, donc je pense qu'il va être un peu particulier. Là, j'ai un petit trac, ne serait-ce que d'y penser. Mais voilà, premier Zénith, 21 mars, et puis la tournée, voilà, le 13 novembre. Je suis contente de voir que le public l'a rempli avant que l'album soit sorti, mais il y a encore tout plein de place et hâte de vivre ce disque en live.
L'album s'appelle Millennium, il vient de sortir. Oui. Merci beaucoup, Suzanne, d'être passée dans le monde d'Élodie sur France Info.
D'abord, il y a eu Gisèle. Et puis il y a eu Sophie, Lisa, Khadija et Marie, et ma copine Claire. Et puis il y a moi aussi. Et puis toutes celles qui n'ont jamais rien dit, mais t'en as rien à faire. Toi, ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire. Toi, et c'est bien ça le problème. C'est ce qu'on doit te faire nous-mêmes, car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu. Je t'accuse, fais pas l'innocente, t'as rien fait quand t'as su. Je t'accuse. Sûrement que t'existes pas. Pourquoi t'es jamais là quand on ne croit plus qu'en toi? Demande à tous les gosses que tu ne protèges pas. Tous les monstres ne sont pas que dans les salles de cinéma. Mais t'en as rien à faire. Toi, ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire. Toi, où faudrait faire nous-mêmes, car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu. Je t'accuse, c'est pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su. Je t'accuse. Main droite levée, je t'accuse et j'assume, et j'assume. Pour celle qu'avait prévenu et que t'as jamais entendu, je t'accuse.